9h dans le bureau de Par Jupiter.
Eh ben tu vois, c'est ça la force d'une nouvelle.
Eh oui, là on est directement à l'os. Ah,
c'est vous parlez de quoi là les filles hein?
D'un recueil de nouvelles, figure-toi.
Ah, des nouvelles, c'est nul les hein? nouvelles.
Ah bon?
Oh, quand tu tiens pas la longueur pour un roman, t'écris une nouvelle, c'est nul.
Mais ça va pas bien l'autre.
Mais non, mais c'est comme aller à la piscine et rester dans le petit bassin.
Eh ben tu diras ça à notre invité tout à l'heure, on discutait de son livre.
Ah ouais. Non mais attends, moi j'aime bien les écrivains, ça fait toujours de belles émissions, mais bon.
Ouais, voilà. Bah, pour faire une belle émission, il faut bosser. Allez.
Ah non mais détendez-vous là. Oh, on reçoit pas un ministre non plus, calmez-vous.
Ouais, alors non, c'est quelqu'un dont la parole a une portée, surtout chez nos auditeurs.
Oui, bah non, mais ça va, on reçoit pas genre la Lady Gaga de la gauche, quoi. Bon.
Et tu penses à qui quand tu dis ça?
Bah, je veux dire, c'est pas Christiane Taubira non plus qu'on reçoit. Quoi? Non, c'est... Bah... Hein? Vous me faites marcher ou quoi?
Bah non, voilà, c'est son recueil de nouvelles.
Quoi?
Mais qu'est-ce que tu fais, Guillaume?
Mais je panique, voilà ce que je fais, je panique, je suis pas prêt. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Traîtresse!
Mais qu'est-ce qu'il fait à genoux, là, maintenant?
Sainte Christiane, mère du mariage pour tous, ne te soumets pas à la démission. Va des rétros, Jean-François Copé.
Mais là, je crois qu'il prie. Là,
et protège-nous des abîmes grâce à la puissance de tes rimes.
Non, mais enfin, arrête, Guillaume, elle a dit qu'elle y allait pas à la présidentielle.
Le débat, fais-le avancer et n'hésite pas sur le programme de Le Pen à t'essuyer les pieds.
Oh, il a une photo de Taubira sur son bureau avec une bougie.
Mais la bougie, c'est pour le rituel. Je dois sacrifier un exemplaire de Valeurs Actuelles. Poussez-vous.
Non, mais là, clairement, il est pas en état de faire l'émission. Hein.
La République a besoin de toi, Christiane. Les forces du mal sont aux portes du pouvoir.
Là, est-ce qu'il nous reste un bouquin de Pécresse, là? Il faut l'exorciser.
Christiane.
France Inter et bienvenue chez les petits alchimistes de votre redevance. Voici la citation du jour. On n'est pas sérieux quand on a 17 candidats à la présidentielle. Voici le sommaire. Un nouveau concept ambiance la campagne, même s'il date des années 70. C'est l'écoféminisme. Il est perçu comme radical, à l'instar de la décroissance, de l'intersectionnalité, voire du wokisme, des idées pour changer le monde, mais qui terrifie l'homme blanc.
N'oublie jamais de la femme le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Qu'est-ce qu'une société inclusive? C'est une société accessible à tous et qui rappelle que les humains ont en commun la vulnérabilité. Ah. Donc maintenant la question est, une société inclusive est-elle possible? Quand on sait qu'une société égalitaire, on n'y est pas encore tout juste.
Bah, j'y ai cru, moi, une société meilleure basée sur le partage.
Mais tu sais, maintenant c'est terminé le temps des cerises. Maintenant c'est le temps des noyaux.
L'humour politique est un humour clivant et souvent mal compris, je dirais.
Oui, c'est possible.
Alors, la blague est-elle l'allié ou l'ennemi du politique? Disons que ça dépend d'où on parle et de qui ça vient.
Le changement climatique a eu des conséquences. Il y a maintenant une jungle à Calais.
Exactement, ce qu'il ne faut pas faire.
On l'avait oublié.
Allez, à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Et en l'honneur de notre invité, une équipe éprise d'éloquence. Elle séduit notamment grâce à une parole pleine de fantaisie et d'imagination. Elle est l'incarnation de la verve et en même temps dans sa tête, elle n'est pas toute seule. Voilà donc Constance et ses verves.
C'est moi. Bonjour les amis.
Constance, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Je vais faire une chronique qui va nous prouver qu'on a quand même bien de la chance.
Ah bah, très bien, voilà, en règle générale. Voilà, d'accord. Très bien. Ensuite de lui, les gens pensent qu'il est Usain Bolt de la vanne. Moi qui le vois laborieusement écrire tout l'après-midi, je penche plus pour ce Doc Gynéco, Guillaume Meurice.
Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Bah, je suis allé au grand congrès de Agir aujourd'hui, qui se définit comme la droite humaniste, la droite gentille.
La droite gentille, c'est la droite qui pense avant tout au bonheur des autres.
Ça va être extrêmement mignon, je préfère vous prévenir.
Et enfin, celle qui a obtenu la note de 18 à l'oral du bac de français, des rumeurs disent qu'elle a été pistonnée. En effet, elle est tombée sur un recueil de poèmes du grand Apollinaire, celui qui s'intitule « Alcool, Juliette Arnaud ». Bonjour, comment allez-vous? Ça va, pas trop mal. Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Oh, bah du livre de l'invité, bien sûr.
Oui. Et voici celle qui va mettre les points sur les « i » de la littérature et de l'actualité. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Christiane Taubira. J'avais un doute.
Par Jupiter.
Pardon, calmez-vous, Guillaume. Calmez-vous. Christiane Taubira, bienvenue dans Par Jupiter. Vous publiez un recueil de nouvelles intitulé Ces morceaux de vie, trois petits points, comme carreaux cassés, paru chez Robert Laffont.
C'est pas Juliette.
Alors, je vais achever de mettre le feu à Guillaume Meurice, puisque je vous ai entendu dire en interview, et je vous cite, « Je suis une sensitive, une sensuelle. Et une fois votre recueil achevé, je confirme, ça foisonne, ça fourmille, pléthore de personnages, mais aussi de références culturelles, d'autres écrivains et écrivaines, mais aussi de films, même des films d'horreur, des chanteurs, des chanteuses, leurs chansons, leurs concerts, de Bob Marley à Nina Simone, des danses, des artistes, des penseurs moins connus, pléthore
c'est
de paysages, d'époques, d'angles. » Et à aucun moment, on se dit, oui, ce livre manque de passion ou de chair. Est-ce que c'est une volonté de rassembler des vies, mais pas de manière exhaustive, et des morceaux de vie? Et donc, des morceaux de vie, ça va mieux avec des nouvelles qu'avec un roman.
Sans aucun doute, mais de toute façon, moi, je ne vois pas l'intérêt de suivre une vie en continu. Ce qui me paraît intéressant, c'est vraiment de saisir des moments, de saisir des instants, de saisir des contradictions aussi, de saisir des vulnérabilités. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus prosaïque. C'est que l'année dernière, j'ai écrit un roman parce qu'on était confinés pendant 2 mois. Mm-hmm. Et là, comme c'était un peu en zigzag, ça correspondait un petit peu mieux.
D'accord.
Mais j'ai eu tort de dire ça, vraiment. J'ai envie de ravaler ce que je viens de dire.
On coupera.
Parce que j'ai enlevé tout le lyrisme de l'affaire. J'ai aimé la compagnie de ces femmes-là. Je les ai retrouvées parce que ce sont des femmes que j'ai croisées à un moment ou à un autre. J'ai eu envie de les retrouver. J'ai eu envie de leur donner des petites choses de moi aussi. Ça c'est quand même un peu plus poétique.
Ça, c'est mieux, ça.
C'est mieux,
on va garder ça.
De se soumettre tout bêtement
que
à une consigne.
Que j'ai écrit ça vite fait dans l'avion, etc. Non, ça, non.
Et pour rester avec la sensitive, l'amoureuse...
Il y a une marche arrière, ici.
Malheureusement, non.
Si, on fait comme si ça n'existait pas.
Oui. Le déni, ça s'appelle.
Donc, toujours la sensitive, l'amoureuse, à un moment, on tombe sur, dans la bouche d'un des personnages, une femme, bien sûr, elle cite Horace, et le vers le plus célèbre d'Horace, Carpe Diem, tout le monde connaît ça, mais vous la citez en entier. Et ça fait Carpe Diem, quam minimum, credula postero. Ne crois pas, ou ne crois que peu au jour qui vient, seul compte le jour présent. Et c'est adressé à
Crédula,
la femme crédule. Mmh. Est-ce que c'est un point commun entre les différentes héroïnes des nouvelles, leur crédulité et le moment où leur crédulité se brise, justement comme un morceau de carreau?
Les carreaux, ça n'est pas seulement la crédulité. Les carreaux, c'est ces moments de vie où elles sont dans un instant particulièrement aigu, où leur vulnérabilité est plus grande, mais elles résistent à cette vulnérabilité. Même lorsqu'elles en sont conscientes, elles résistent. Ce sont des femmes qui prennent des risques sans arrêt. J'espère que vous n'avez eu envie de pleurer sur aucune d'entre elles, alors qu'elles traversent des moments extrêmement difficiles. Ce que j'aime chez elles vraiment, c'est qu'elles sont confrontées à un système social qui les écrase, qui les méprise très souvent. Elles sont confrontées à des hommes qui sont tellement vautrés dans leur position de pouvoir qui leur écrasent la tête, parfois inconsciemment. Elles sont confrontées à leur situation, leur position de mère, et malgré ça, elles cherchent à séduire. Malgré ça, elles pensent à monter des espèces de cabales pour attraper l'homme. Ce sont pas des femmes à plaindre. En tout cas, je n'ai pas voulu qu'elles soient à plaindre. Et oui, elles croient à ce vers de Horace. Elles comprennent que on se met pas dans un coin pour pleurer. Il n'est pas question.
Il s'agit de vivre. Il s'agit de vivre maintenant.
De vivre et puis de conquérir ce qu'on veut. Vouloir d'abord et conquérir ce qu'on veut.
Je vous ai entendu dire qu'il ne fallait pas vous rechercher dans telle ou telle héroïne, mais que vous traversiez toutes les nouvelles. Il me semble néanmoins que vous êtes plus particulièrement... Enfin, moi, il me semble vous avoir trouvé dans la dernière nouvelle qui a 3 prénoms, puisque c'est 3 femmes d'une ascendance. La grand-mère, la petite-fille et l'arrière-arrière-grand-mère.
Voilà, ouais.
Claire, Cécile, Céline.
Oui.
Est-ce que oui ou non, vous êtes un peu plus dans cette nouvelle-là, qui raconte une chose plus difficile, encore plus difficile que les autres nouvelles.
Ça fait vendre le livre, ça.
Sans doute que je me suis... je me suis identifiée davantage. Parce que elle est plus douloureuse, c'est là. Elle est plus collectivement douloureuse. Les autres sont parfois individuellement douloureuses.
Elle raconte un morceau d'histoire très précis sur le mariage.
Celle-là est plus collectivement douloureuse, c'est-à-dire qu'elle rappelle une blessure partagée. C'est pas chacune sur sa trajectoire qui, à la limite, va chercher ses tracas elle-même. Et puis, si la montagne d'Aglo lui tombe sur la tête, elle a un peu marché, voilà, de travers. Mm-hmm. Là, c'est effectivement une histoire plus collective. Alors peut-être qu'à mon insu, j'ai pris parti davantage.
Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le marronnage? Et surtout là, c'est en Guyane.
Oui, alors c'est six générations en fait, hein, puisque c'est une transmission qui se fait de grand-mère. De c'est grand-mère trop douloureux à chaque fois. Oui. Donc ça se fait de grand-mère à petite-fille. Donc il y a une, la première Claire, c'est l'époque de la traite négrière, de l'esclavage et donc du marronnage. Elle marronne avec ses enfants et avec son compagnon. C'est-à-dire le marronnage, c'est on quitte la plantation et on va en forêt et on reconstruit une vie en forêt. On construit en fait une vie en forêt, donc une vie collective. Ça se trouve dans toutes les sociétés qui ont connu l'esclavage. Donc c'est totalement vrai. Il y a des villages comme ça. Au Brésil, ça s'appelle des quilombos. Il y en a qui ont duré plus d'un siècle et demi. En Guyane, il y en a qui ont duré plus de 50 ans. Donc ça veut dire que même il y a des enfants qui naissent et qui ne savent même pas qu'il y a de l'esclavage sur le reste du territoire. Donc Claire s'en va avec ses enfants. Ils seront repris. Alors, je ne sais pas s'il faut tout raconter,
mais il y a
une transmission. Alors, ça explique comment on vit, comment la chasse se fait, et puis comment ces personnes-là réagissent à ça, et comment ça transmet du savoir, des sentiments, des connaissances, des noms, comment ça transmet.
Christiane Taubira, qui publie donc « Ces moments de vie ». Comme Carreau cassé, c'est publié chez Robert Laffont. On va y revenir tout à l'heure avec Juliette Arnaud qui va chroniquer ce recueil de nouvelles. Et puis on va rigoler les amis, bien sûr. C'est vrai?
Oh yeah.
C'est Jacques Higelin. Tête en l'air, c'est tout moi ça. Vous écoutez Par Jupiter, nous sommes en compagnie de Christiane Taubira pour son recueil de nouvelles et Juliette Arnaud pour l'entourer.
Ah bah des chics filles, Constance et moi. Et un mauvais garçon.
Oui, pour l'info.
Ah,
le journal de presque 17h17.
Et oui, pour faire un œuf mélangé, c'est très simple. Il vous faut un œuf, un ruban adhésif, deux élastiques, un bas-chaussette et des bras.
Et on commence par les titres, donc.
Oui, dans ce journal, on parlera d'Emmanuel Macron.
Et on parlera donc certainement de lancer de dur.
Oui, on parlera aussi d'Éric Ciotti.
Alors là, c'est plutôt tête d'œuf, alors on parlera peut-être.
Et on évoquera aussi Jean-Claude Van Damme.
Ah, donc on parlera d'œuf à la coke. Une thématique.
Ah, oui, j'ai bien compris.
Et on commence par la politique.
Lors de sa visite à Lyon, lors d'un bain de foule, un homme a visé Emmanuel Macron avec un œuf.
La force et la violence sont des dieux solitaires, ils ne donnent rien aux souvenirs. Albert Camus.
Donc si vous prend Guillaume.
Non, mais je cite.
Les... Non, mais vous ne citez pas des citations parce que Christiane Taubira est là,
mais
quand
pas
même.
Pas du tout. J'avais envie de faire une citation d'Albert Camus.
On poursuit. Voilà. L'homme à l'origine de ce.
J'ai déjà entendu citer.
Voilà, c'est très bien.
L'homme à l'origine de ce jet a été expertisé par un psychiatre qui a conclu à une altération du jugement.
Le degré d'humanité d'une société se reconnaît à la place qu'elle accorde à ses marges, ses fous et ses déviants. Lucien Bonafé.
Guillaume, ça devient gênant là.
Mais je vous jure, c'est un hasard.
Ouais, enfin, on est obligé
de faire des vannes tout le temps, un peu de culture.
Allez, ça politique élève. Toujours. Jean Castex fixe l'objectif de former 1,4 million de demandeurs d'emploi en 2022.
Bah, il est complètement con, quoi. Mais il faut former des infirmiers, des profs, mais pas des demandeurs d'emploi. Ça va augmenter le chômage,
hein,
si on en forme.
Non, il veut former les chômeurs pour les aider à trouver un travail, Guillaume.
Ah d'accord. Oui, ouais. Je me disais aussi, c'était pas malin. Mais comme ça venait du gouvernement, ça m'étonnait pas. Je trouvais ça logique.
Politique encore. Les militants socialistes voteront pour choisir leur candidat à la présidentielle.
Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour Ségolène Royal.
Ah, pourquoi ça?
Comme il n'y a que 12 militants, avec les 11 voix qu'elle a réunies au sénatorial, elle pourra remporter, on va dire, une large majorité.
D'ailleurs, ce matin, elle était l'invitée des 4 vérités sur France 2 et elle a parlé d'Anne Hidalgo.
La semaine même où le parti me refusait l'investiture et parachutait un candidat contre moi, Anne Hidalgo s'est effondré dans les sondages pour atterrir à 4%.
Eh, comme par hasard! Et voilà! Et en plus, c'était la semaine où il y avait le retour des frites à la cantine. Coïncidence? Je ne crois pas.
D'ailleurs, après sa défaite au sénatorial, Ségolène Royal a déclaré qu'elle en voulait au PS, qu'elle n'excluait rien pour 2022, qu'elle verra au bon moment.
Je crois au moment. S'il n'y a pas le moment à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut. Aimé Césaire.
Non, ça c'est Jean-Claude Van Damme, ça.
Vous êtes sûre de ça?
C'est certaine, ça.
Ouais, d'accord.
Moi aussi, je suis formelle.
Ça ressemblait un peu. Mais alors enchaînons.
Allez, on était toujours. La France réduit de 50% les visas accordés à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie.
Ah là là là, il est long ce mandat de Marine Le Pen, non?
Invité de LCP, Éric Ciotti a été interrogé sur Éric Zemmour.
Quand on provoque haine raciale, est-ce qu'on est raciste? Ou est-ce que vous dites on n'est pas raciste alors qu'on a été condamné définitivement pour provocation à la haine raciale?
Écoutez, moi, je ne convoque jamais la justice comme arbitre de la politique.
Est-ce qu'Éric Zemmour est raciste?
Non, pas du tout.
Voilà. Comme ça, on a la réponse, c'est bien. Alors qu'elle avait mis quand même la réponse à la question. Mais non, voilà. Il faut séparer l'homme du raciste.
Oui. Présidentielle 2022, le camp de Xavier Bertrand ouvre la porte à sa participation à un congrès LR.
Alors, il faudra donc deux portes, hein. Une pour lui, une pour son égo.
Jordan Bardella, lui, veut transformer l'OTAN en organisation contre l'islamisme.
Oui, j'ai vu ça. Il veut transformer aussi Action contre la faim en Action contre l'islam.
Oui, et transformer Enfance et partage en Enfance sans arabe.
Oui, et
on a compris,
d'accord. Mais j'aime bien ce jeu. Jouez chez vous, si vous voulez.
Hashtag par Jupiter, jouez.
Voilà,
des photos de poubelles de stars sont mises aux enchères aujourd'hui à Drouot.
Ah, ça c'est déjà fait, ça, j'ai vu, Charline.
Ah bon?
Oui, Europe 1, ils ont fait des photos des poubelles de Valeurs Actuelles et puis ils ont fait la ligne éditoriale avec.
Technologie aussi. Il est désormais possible de donner des pourboires en bitcoin sur Twitter.
Oui, les tweetos vont donc être payés pour insulter d'autres personnes. Twitter se transforme donc en plateau de CNews.
Voilà, ça fait du bien. Ça coûte pas cher, c'est votre redevance
et comme
ça fait beaucoup de bien.
On est bien informé. Christiane est bien informée.
Christiane Taubira avec nous et ce premier sujet, l'écoféminisme est un concept qui allie la défense du climat et la défense des droits des femmes. À cette intersection, on trouve donc ce slogan, par exemple, sauvons les zones humides. L'écoféminisme s'est imposé dans la primaire des Verts, mais dans le débat télé, il est caricaturé et même instrumentalisé par la droite pour diaboliser la gauche. L'écoféminisme est né dans les années 70 quand une membre du MLF, Françoise Daubonne, s'est rendue compte qu'elle était exploitée par le patriarcat au même titre que la nature.
Ce soir, j'ai engagé 75 ouvriers.
Attention.
Oui. Alors, demain, les nouvelles machines vont commencer à arriver. Alors, derrière la maison, il y a de la place.
Derrière la maison?
Le potager.
Mon potager?
Le potager, 200 mètres carrés.
Guillaume.
Ma chérie.
À l'automne, j'y ai fait mes boutures. Et en février, j'y planterai mes oignons. Alors, je voulais te dire, l'expansion économique, d'accord. Les Japonais, merveilleux. Mais le reste, jamais.
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 N'en parlons plus.
Jardot et Fufu dans la zizanie de Claude Zidi. Alors, Christiane Taubira, l'écoféminisme, est-ce que vous y voyez une sorte de renouvellement démocratique ou c'est impossible à traduire en politique? Parce que c'est quand même un concept qui nous a été posé dans le débat. Et...
impossible à traduire en politique. La question est de savoir ce qu'on vise. Mmh. En politique, il faut que les objectifs soient clairs. Il faut que les ressorts de ces objectifs aussi soient clairs. C'est-à-dire qu'il est incontestable qu'à la période où nous vivons, la question de l'égalité du genre est une question centrale. Parce que c'est la question de l'égalité. C'est d'abord la question de l'égalité. Lorsqu'on élimine le prétexte de la nature pour justifier les inégalités, et c'est ça le sexisme, c'est considérer que bon, la catégorie des femmes, c'est juste un fait naturel, que cette catégorie-là, ça peut être opprimée. Bon. Une fois qu'on a éliminé ce prétexte, qu'on a montré à quel point il est ridicule, qu'il ne repose sur rien, on voit la fragilité des autres prétextes. Donc l'égalité de genre est une égalité matricielle d'une certaine façon parce qu'elle dévalorise tous les autres prétextes, que ce soit la croyance, que ce soit l'apparence, que ce soit le handicap, que ce soit les affinités amoureuses, peu importe. Mm-hmm. Tout le reste, on voit bien que ce sont des prétextes, que ce sont des piliers pour justifier le maintien d'une société, le maintien d'un ordre. Donc c'est en ce sens que le féminisme, moi je l'appelle un humanisme, parce qu'il pose la question centrale de la vie en commun. Mm-hmm. Et puis l'écoféminisme, parce que... alors il y a
c'est deux préoccupations majeures de la jeunesse, justement, l'écologie et le féminisme.
Oui, et puis ce sont les deux grands enjeux, parce qu'ils contiennent tous les autres. La question de l'égalité pose toutes les autres questions. Elle pose la question des solidarités, elle pose la question de l'hospitalité, elle pose la question des cultures, elle pose la question de la nécessité de porter ensemble les histoires, y compris les histoires antagoniques. Donc la question de l'égalité, la question de l'égalité du féminisme, donc de l'égalité, porte tout ça. Et puis on sait bien que les enjeux pour la préservation de la planète sont colossaux. Mais il y a autant de disparités au sein des mouvements féministes qu'il y a de contradictions au sein, à l'intérieur des mouvements écologistes.
Donc c'est
écologistes.
Un concept très 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 général. Donc, alors,
absolument, absolument. On peut y danser vraiment,
et qui est instrumentalisé, il y a quand même un retournement. Maintenant qu'on a bien dédiabolisé l'extrême droite, ce concept il permet de diaboliser les idées vertes et de gauche. Il y a un retournement quand même là, non?
Bon, les obsédés de la diabolisation, bon, ils n'ont qu'à finir en enfer.
Oh, on va laisser là.
Mais oui, je crois. Oui. Non, il faut une fois, en tout cas, qu'on a des ambitions politiques, je pense qu'il faut être précis. Il ne faut pas continuer avec des concepts dans lesquels chacun met ce qu'il veut et que personne ne comprend, parce que ça n'est pas mobilisateur.
Eh bien, celui qui va pouvoir peut-être préciser ça, il va devoir devenir écoféministe, c'est Yannick Jadot, qui a donc été élu avec 51,03% le candidat de la primaire EELV. Est-ce que vous entendez le bruit des bottes en caoutchouc qui arrive? Faites attention. Yannick Jadot, donc breaking news, on a un candidat vert pour la présidentielle de 2022. Constance, sur cette nouvelle, dites donc.
On ne sait pas quoi faire de cette nouvelle.
Non, pas trop, à part écouter Constance. Bon, alors...
Bonjour les amis. Je vous souhaite à tous un très joyeux mardi. Nous sommes le 28 septembre et c'est la journée mondiale contre la rage. La quoi? La rage. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que vous ne sachiez pas ce que signifie le mot rage, puisque le vaccin contre la rage a été découvert en 1885 par Louis Pasteur. Et depuis cette date, tout le monde est gentil et détendu sur cette planète. Avant l'élaboration de ce précieux vaccin, les gens étaient toujours en colère et n'hésitaient pas à se dire des choses très vilaines telles que « Tu vas la bouger, ta caisse, grosse pute !» ou encore « Et clignotant, c'est pour les enculés !» Oh, c'était terrifiant. La rage était transmise par des agents pathogènes du type Conardus congenitalus ou Cretinus finilapicus. Le facteur petit bibitus pouvait fortement aggraver les symptômes. L'homme enragé, pour un oui ou pour un non, allait massacrer son voisin jusqu'à ce que parfois la mort s'en suive ou pire, jusqu'à ce qu'un huissier vienne constater que les branches dépassaient effectivement sur le terrain du voisin. Pour évacuer le trop-plein de rage, les autorités organisaient des rassemblements appelés soldes qui servaient d'exutoire, où l'on pouvait piétiner ou arracher les cheveux des individus qui convoitaient les mêmes objets inutiles. L'apaisement était efficace, mais hélas, de courte durée. Dans le même souci préventif, les gouvernements prenaient des décisions injustes et iniques, permettant aux gens de se disputer
crier et de se déchirer et de manifester leur rage dans la rue. Ces manifestations déclenchaient à leur tour des réactions en réaction à ces réactions et ainsi tout le monde se chicanait et on pouvait carrément vachement beaucoup libérer sa rage. Les gens étaient tellement tendus à cette époque qu'une étincelle pouvait instantanément embraser leur rage et attiser. Un petit endroit était incroyable pour attiser toute cette rage, un endroit qui s'appelait Internet. Un endroit disparu heureusement aujourd'hui. Un menu végétarien à la cantine, une blague de Zob ou la présence de persil dans une recette de taboulé traditionnelle pouvait déchaîner des rages terribles car ces mini-événements étaient soumis à l'effet boule de neige ou réaction en chaîne. Un exemple de réaction en chaîne, un certain Robert qui aime l'humour et la gastronomie publie une photo d'un plat d'escargot en sauce beurre à l'ail et met le commentaire suivant. C'est comme « Maman, c'est meilleur quand c'est fourré ». Les 342 membres de fan club des escargots sont nos amis, se déchaînent alors immédiatement et traitent Robert d'assassin et de puissant fond. Aussitôt, l'association des puisatiers d'Ibabéry s'insurge et annonce qu'ils vont tous, en signe de protestation, se raser la nuque. Nos rasoirs ne sont pas faits pour raser l'anus, s'insurgent alors les fabricants de rasoirs un peu myopes. S'en suivent de la rage, des menaces de mort, des insultes sur les vêtements ou sur les mamans. Oh mon Dieu, quelle époque! Oh là là, ça paraît fou aujourd'hui! Au pire moment de l'épidémie, la rage a confiné à la folie et certains des plus grands malades sont devenus présidents ou dictateurs ou propriétaires des grands groupes médiatiques. L'espèce humaine était à deux doigts de disparaître. Mais heureusement, heureusement que Louis nous a sauvés avec son vaccin contre la rage. Merci Louis, merci de nous avoir guéris.
Constance, en fait, le vaccin contre la rage découvert par Pasteur, ça concerne quand même une maladie virale. Hein, je veux dire, pas trop la haine ou la colère, malheureusement.
Je sais tout ça. Mais je pratique le déni ouvertement, parce que sinon j'ai tout le temps envie de mourir. Allez, la semaine prochaine, je vous parlerai du vaccin contre la coqueluche. Un vaccin pour éviter de faire des préférences. À bisous.
Merci, Constance. Et je rappelle que vous jouez samedi à Auxerre, nous serons le 2 octobre, et aussi à Nantes le jeudi 7 octobre.
Bien sûr.
Mais je sais beaucoup de choses.
C'est incroyable.
Mais nous sommes avec Christiane Taubira jusqu'à 18h.
My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Yeah, I get a kick out of you.
Me? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
Lady Gaga et Tony Bennett, choisis par Djoubaka sur France Inter, par Jupiter, avec Christiane Taubira. Et une question, Juliette?
Qu'est-ce que c'est que ce titre avec une ponctuation à l'intérieur?
On rappelle, hein, ces moments de vie, ces morceaux de vie, trois petits points, comme carreaux cassés. Trois petits
parce points. Que c'est pas commun, quand même, dans les titres.
Ça m'est venu, déjà. Bon. Déjà. Ça m'est venu, j'ai pris.
Oui, c'est ça, mais vous savez que ça n'est pas la règle. Vous avez enfreint la règle.
Parce qu'il y a des règles pour les titres, depuis quand?
Non, non, mais c'est une règle tacite, mais c'est une convention en général, il n'y a pas de ponctuation. Mais vous, vous l'avez voulu et vous l'avez eu.
Ah bah bravo. Ah oui, et puis en général, quand j'écris, c'est ce que j'ai écrit qui est publié.
Oui, vous faites peur aux éditeurs, voilà. On sait.
Je n'ai pas peur, mais par exemple, même pour une virgule, quand on me dit on va faire de la typographie, je dis non, la virgule, c'est pas de la typographie, c'est du rythme. Donc quand j'ai mis une virgule, on n'enlève pas, et quand j'en ai pas mis, on n'en ajoute pas.
On ne touche pas au flow de Taubira.
Donc, mais disons que c'est une nouvelle règle, si vous préférez.
Très bien, je vous laisse
dans Taubira. C'est une respiration pour vous permettre de vous interroger. Ces morceaux de vie, qu'est-ce qu'on en fait?
On prend un temps, on réfléchit.
Qu'est-ce que c'est? Comme des carreaux cassés. Ah, c'est quoi les carreaux cassés? Voilà. Ce sont des morceaux qui s'isolent, en fait, qui se séparent de l'ensemble.
Lui, il aime bien casser les choses d'une autre manière, je dirais. C'est Guillaume Meurice.
Oui, je vais vous parler de la droite humaniste aujourd'hui. Alors, tenez-vous bien. Alors, je vais vous en parler parce que déjà, j'adore les oxymores. Alors, la droite pas humaniste, bon, bah, Christiane connaît, hein, puisqu'elle a travaillé avec Manuel Valls. Vous vous souvenez, Christiane? Lâchez ce couteau à huître immédiatement, ça va bien se passer. Alors, pourquoi la droite humaniste? Parce qu'il y avait lieu le grand rassemblement du mouvement qui se définit comme tel, c'est le mouvement Agir, présidé par Franck Riester, qu'on connaît bien, nous, personnellement, puisqu'il a été notre ficus de la culture, notre ministre de la culture. Pardon. Et d'ailleurs, Franck a été réélu à la tête de son mouvement avec 95% des voix. Poutine l'a immédiatement félicité. Ali Bongo s'est dit très très impressionné par ce score. Alors, je suis allé à ce rassemblement pour interroger les militants et les participants au meeting avec d'abord cette question toute simple. Qu'est-ce que la droite humaniste?
La droite humaniste, eh bien, c'est une droite, hein, comme son nom l'indique, et puis qui met au centre l'homme, voilà, c'est-à-dire voilà toutes les le respect, voilà l'humanisme pour moi, voilà c'est voilà, le progrès pour l'homme, voilà c'est vraiment quelque chose et non pas j'allais dire aux dépens de l'homme, non c'est voilà tout pour vous voyez tous ces choses-là.
Voilà, bah, comme ça on sait de quoi on parle, je trouve ça voilà c'est toujours bien de clarifier le sujet. Donc le mouvement Agir défend la politique d'Emmanuel Macron, il est donc complètement dans la majorité, mais il incarne le côté humaniste. Donc, bah, du coup, j'avais des questions.
Est-ce qu'on peut être de droite humaniste et défendre, par exemple, les flashballs, les grenades de désencerclement et ces choses-là?
Oh oui, forcément, il faut quand même de la sécurité. Hein.
Donc, on peut être humaniste et éborgner des gens?
Oh non, non, bien sûr que non, ça n'a rien à voir, ça.
Peut-être que parfois, la droite humaniste n'est pas si humaniste que ça.
Oh, toujours, si.
Ah, oui, non, ben, si, d'accord. Non, parce que les flashballs, il en existe des flashballs humanistes. Hein, bien évidemment, il y a des petits autocollants Amnesty International dessus, si vous zoomez bien. Le CRS, quand il lance la grenade, il pense à Gandhi. Voilà, ça, c'est vraiment la différence avec la droite classique, c'est la droite humaniste. Allez, continuons avec une autre question pour un autre participant.
Est-ce que la droite humaniste est compatible avec des coups de couteau dans des tentes de réfugiés?
Là, je vais vous faire beaucoup de peine et je serai obligé de le couper. Parce que vous prenez une particularité locale qui n'est pas une généralité. Donc,
mais une réalité quand même, non?
C'est une réalité à prendre en compte.
Enfin, ma question, c'est est-ce que la droite humaniste est compatible avec des coups de couteau?
Vous ne me le ferez pas dire. Vous serez obligé de le couper.
Ah bah merde, bon bah je le couperai. Hein. Du coup, je vais pas le passer dans ma chronique puisqu'il n'arrive pas à répondre à la question. C'est con, hein? C'est dommage. Hein. Il m'a bien eu, dis donc, j'ai l'impression, celui-là. Bon, ils sont malins. Alors, ils ont des élus chez Agir, des députés. Valérie Petit, députée du Nord, la droite humaniste. Donc, qu'est-ce que c'est?
C'est la droite qui est fidèle à la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 1er,
ouais.
La défense des droits.
Emmanuel Macron, il avait dit que plus personne dormirait à la rue fin 2017, et alors là, on a l'impression que c'est raté, ça, déjà.
Non, bah, il a dit, il a raison de le dire, il faut le réaffirmer, et il faut en faire une réalité.
Mais quand?
Quand?
Bah, ouais.
Écoutez, vous me laissez terminer le congrès?
Mais non, mais il avait dit fin 2017.
On dit que nous, notre rôle, c'est d'être vigilants.
Oui, voilà, d'accord. Oui, la droite humaniste, c'est la vigie, voilà, qui fait attention à ce que les policiers se blessent pas quand ils défoncent une tente de réfugiés. C'est ça aussi l'humanisme, bien sûr. Ça n'a pas l'air de vous avoir convaincu énormément, donc je vais aller voir directement le boss, hein, Franck Riester. Ah. Il est aujourd'hui ministre du Commerce extérieur.
Ah bon?
Alors, Francky, quand il m'a vu arriver, bon, il témoigne à chaud. Il témoigne à chaud, mais bon, il est humaniste. Alors, bon, voilà.
On voit dans un moment où beaucoup essayent d'attiser les haines, de diviser les Français, nous on veut les rassembler et mettre ces questions de la dignité humaine au cœur de nos préoccupations, et c'est ce qu'on fait.
Par exemple, est-ce que mettre des coups de couteau dans les tentes des réfugiés à Calais, est-ce que c'est de la droite humaniste ?
C'est pas le cas. Alors là, techniquement, il est parti, en fait. Il a fait un refus d'obstacle, comme on dit en équitation. Il a essayé de se fondre dans la foule. Bon, le problème, c'est que c'était le congrès Agir, donc il n'y avait pas de foule. Donc je l'ai suivi.
Mais non.
J'ai fait l'école Élise Lucet, donc j'ai pas lâché l'affaire.
Vous n'avez pas bien répondu à ma question. Est-ce que c'est de la droite humaniste ?
Non, c'est pas de la droite humaniste, mais pourquoi vous me posez cette question-là ?
Parce qu'on parle de droite humaniste et vous soutenez le gouvernement Macron, et c'est le gouvernement qui fait ça, non ?
Non.
Il est reparti. C'est sportif, la droite humaniste. Je ne pensais pas être obligé d'autant cavaler. Alors, c'est pas grave, allons-y, parce que j'avais une autre question.
Est-ce que baisser les APL, c'est de la droite humaniste ?
Franchement, la situation du pays, les enjeux qui sont devant nous, les tensions de la société méritent mieux que ce genre de caricature.
Ah, j'ai fâché la droite humaniste. C'est pas la droite de la remise en question. En attendant, c'est la droite humaniste. Et je crois bien que oui, ce pays mérite mieux que ce genre de caricature qui nous gouverne.
Merci Guillaume Meurice. Donc on retient que droite humaniste, ça n'est pas une caricature.
Non,
faut bien
non,
faire caricature, pas caricature.
Et ben voilà, c'est ça.
C'est pas compliqué.
Caricature, c'est mes questions.
Merci voilà. Guillaume
Meurice.
C'est
technique, hein.
Complètement. Abordons cet autre thème avec vous, Christiane Taubira. Autant l'intégration ou l'assimilation, on finit par avoir une petite idée de ce que ça peut être, mais l'inclusion, qu'est-ce qu'une société inclusive ? Si c'est une société assez souple pour accueillir tout le monde et donner à chacun l'accès au travail, à l'éducation, à la culture ou à la capacité de créer, il y a du pain sur la planche des mentalités.
Je comprends pas les homophobes. Parce que tu vois, pour moi, il n'y a aucune différence entre un PD et une personne normale. Arrête d'essayer d'être tolérant, tu n'y arrives jamais. C'est ce que j'ai fait encore. Tu peux pas dire PD déjà, c'est une insulte. Non, je connais plein de mecs homosexuels, ils s'appellent PD entre eux. Mais c'est parce qu'ils sont entre eux. C'est comme pour négro, tu dis pas ça si t'es pas noir, mon gars. Mon oncle, il est blanc, il dit négro tout le temps. Ton oncle, il est raciste. Ah oui, c'est vrai, putain. À chaque fois, j'oublie qu'il est raciste parce qu'il est sympa. Bon, alors je reprends, monsieur, je chipote. Pour moi, il n'y a aucune différence entre un homosexuel et un mec normal. Non, toujours pas. C'est quoi, laisse tomber, vas-y, on oublie. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Il n'y a aucune différence entre toi et un mec intelligent. Merci.
Bloqué, c'est un programme court avec Orelsan et Gringe. C'est le sujet que vous avez choisi d'aborder, Christiane Taubira. Qu'est-ce qu'une société inclusive ? Est-ce que vous nous posez la question ? J'espère que non. Je préférais que vous y répondiez.
Pour être honnête, j'étais très occupée quand on m'a demandé un sujet.
Mais le concept est intéressant. Moi, je
savais vous pas avez que ouvert le journal.
Alors, j'ai dit, non, j'ai pas ouvert le journal. Je dis à cette bande de hurluberlus-là, je vais prendre un sujet pompeux, ça va leur clouer le bec.
Ah bah, alors, attention.
Et c'est loupé parce qu'en fait, il y a plein de becs ici, d'une part. Et puis surtout, vos becs sont pointus. Ouais. Non, mais c'est un sujet extrêmement sérieux.
Alors, si j'ai bien compris, c'est pas l'individu qui doit s'adapter, c'est la société. Société qui doit faire en sorte que voilà, on a un bien commun, qu'il faut que tous puissent y avoir accès et que finalement chaque homme, tout le monde a une vulnérabilité et que donc là-dessus on peut s'entendre sur l'inclusivité.
Il faut d'abord concevoir l'idée même que nous composons la société. Et l'erreur, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas totalement vrai. Enfin, c'est vrai, c'est totalement vrai, mais c'est pas total. La question de la société inclusive, en fait, s'impose de plus en plus parce que je suis de plus en plus sollicitée dans des pays différents sur la question de la société inclusive. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on cherche, les personnes qui veulent agir cherchent à clarifier en fait ce concept de l'inclusion. Il est pourtant installé depuis un moment, mais c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait dans la trajectoire sémantique des luttes sociales en France.
C'est le handicap beaucoup.
Pas seulement le handicap. Ouais. Le handicap est très intéressant dans la mesure où ça éclaire plus particulièrement les efforts que l'on peut faire vis-à-vis de personnes qui, pour des raisons objectives, sont repoussées de la société. Mais la société inclusive, c'est pas seulement lutter contre les exclusions. Il y a des tas d'exclusions, il y en a qui sont délibérées. Quand vous pensez par exemple aux maires qui mettent des entraves dans les espaces publics contre les personnes qui n'ont pas de domicile, ou bien toutes ces querelles qui finissent pas sur les cantines, sur les menus des cantines, etc. Il y a ces exclusions délibérées qui normalement peuvent être sanctionnées par la loi. Il y a des exclusions de négligence, notamment contre les handicapés, les personnes qui présentent un handicap, souvent on n'assure pas leur accessibilité partout dans la société, alors que la loi l'impose. Mais vous avez des structures, y compris publiques, qui provisionnent plutôt l'amende, le montant de l'amende, plutôt que de faire les travaux pour assurer l'accessibilité. Donc c'est vrai que sur la situation des personnes qui présentent des handicaps, on voit plus clairement ce que peut être une société inclusive.
D'accord, ça donne un bon exemple.
Mais il y a l'exclusion la plus grave et la plus dangereuse, la plus dévastatrice, c'est l'exclusion qui est systémique. Celle qu'on ne voit pas, celle que les institutions reproduisent, et celle que la société elle-même, si elle ne l'organise pas, elle la tolère. Elle la tolère vraiment. C'est-à-dire, elle organise par exemple l'exclusion et l'invisibilité. Je pense à un cas très très récent. C'était en juin 2021. Il y a une jeune cinéaste française, d'ascendance sénégalaise, Alice Diop, qui a obtenu le prix du meilleur documentaire à Berlin. C'est quand même Berlin, c'est quand même un documentaire français. Mais c'est passé dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que ni les circuits, ni les codes, ni les réseaux, ni les relais, rien ne fonctionne pour permettre la visibilité de ça. Et c'est d'autant plus intéressant que... Alors, le documentaire s'appelle « Nous ». Il concerne toute une zone périphérique. Mais ce qui est intéressant, c'est l'inspiration. C'est-à-dire que ce qui lui a donné l'idée de faire ce documentaire, c'est un livre de François Maspero, qui est une très très belle figure de l'édition, de la littérature, avec de beaux engagements politiques. François Maspero a écrit, au début des années 90, il a écrit « Les passagers du Roissy Express ». C'est un très très beau livre qui a de très belles photos d'Anaïck France. C'est vraiment un très très beau livre. Un livre empathique, lucide, joyeux.
C'est votre coup de cœur.
Alors, le documentaire renvoie au livre. Moi-même, j'ai refeuilleté le livre après avoir vu le documentaire. Et pourtant, ça passe complètement inaperçu dans les différents générales. Et ça, c'est de l'exclusion systémique. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un dans un coin qui dit on va l'éliminer de la scène. Mais le fonctionnement de la société fait qu'il n'y a pas de place pour elle sur la scène. Donc c'est ça la société inclusive, faire en sorte que l'égalité soit réelle, et c'est la demande des générations actuelles. Autrement dit, qu'avec nos singularités, il n'y a pas de sens à l'égalité si on n'est pas différent, si on n'est pas singulier.
On a compris ce que c'était.
Elle nous fait un meeting, on a l'impression que c'est un discours, on a l'impression presque.
Non, j'ai démarré alors.
Mais non. Juliette Arnaud, revenons à la littérature avec l'ouvrage de Christiane Taubira.
Quand j'ai fini de vous lire, Christiane Taubira, au moment de dire au revoir à ces morceaux de vie, je me suis fait la réflexion suivante, une réflexion qui va vous paraître un poil grotesque et égocentrique. J'aimerais bien un jour devenir un de vos personnages. J'aimerais bien beaucoup que Christiane Taubira m'écrive, qu'elle pose sur moi son regard d'écrivaine. Et bien sûr, ça ne vaut pas pour tous les écrivains. De la même manière qu'on ne confie pas le discours du témoin de son mariage à n'importe qui, pas plus à ton meilleur ami, charmant mais parfaitement ivrogne, qui va commencer par « Et dire qu'il y a encore, je roulais des pelles à marier sa fille, hein !» Pas plus qu'à Guillaume Meurice, « Ding, 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 j'aimerais bien profiter de ce toast pour évoquer la crise au Proche-Orient. » Et bien de la même manière, qui a envie de se retrouver personnage dans un livre de Michel Houellebecq ? Hein ? Qui ? Voilà, ouais, personne. Ouais, ouais. Quelle que soit la valeur littéraire de ces livres à Michel, on préfère que pas. Mais Christiane Taubira, oui, croiser sa route, puis son regard, et en être réchauffé. Et pourtant, ces personnages n'ont pas forcément la vie facile. Prenez Maya, dont la nouvelle éponyme commence par les mots suivants. « Je lui ai foutu un nion ». Et Maya n'est pas championne de boxe, elle réagit juste à un compagnon violent. Mais la nouvelle commence par Maya qui rend le coup. Et dès le deuxième paragraphe, « J'ai fait mes bagages », parce que Maya a compris, malgré sa jeunesse, et je vous cite, « que chaque époque a ses escarres et que ce sont toujours les femmes qui se grattent. Mais encore que, je vous cite, « dans la cité des humains, il n'y a rien d'acquis, sauf le pouvoir des hommes et leur combine pour te faire trouver ça cool ». Elle est si clairvoyante, Maya, qu'à la fin de la nouvelle, elle est à nouveau en train de ramasser ses affaires pour se barrer loin d'un autre homme. Oui, un autre. Et si le combat de Maya la chipie attrape facilement la lumière, sans être championne de boxe, c'est une combattante. Sans doute qu'un autre écrivain ne trouverait pas de clarté pour Léna. Léna qui échappe de peu à l'hôpital psychiatrique et malgré un épisode dépressif sévère, retrouve, et je vous cite, le goût de faire des frasques. Parce que oui, il arrive que les écrivains pardonnent les frasques des femmes parfois. Peu souvent, le genre de frasque qui consiste à passer par le canapé de son patron. Christiane Taubira ne juge pas Léna. Elle fait mieux, elle lui donne des mots. Et Léna dit « J'ai le droit d'embellir ma vie, de saisir mes chances. » Parfois même, ces personnages, ce sont les personnages du recueil de nouvelles qui ramènent à la lumière des visages de gens qui ont vraiment vécu, mais qui sont passés à l'ombre. Ainsi, moi, j'avais oublié le visage d'Omaira Sanchez en 1985, la petite Colombienne qui avait mon âge pourtant, et qui, suite à l'éruption d'un volcan surplombant son village, isolé et miséreux, mourait, a mouru longtemps, sans qu'on trouve à lui porter secours pendant que moi, je dînais avec mes parents. Inès, le personnage, n'a pas oublié Omaira, la petite fille, et Inès dit « Je revois très clairement le visage d'Omaira, la petite Omaira, il règne dans un coin de mes yeux, et je n'ose pas lui demander pardon. » D'une façon ou d'une autre, j'ai ma part dans ce putain de bordel de monde de merde. Et puisque c'est un putain de bordel de monde de merde, l'écrivaine que vous êtes nous offre aussi les halos de Myrtille, la femme sans domicile autre que la rue, mais aussi celui de Céline, atteinte d'un lenbe indéfinissable, venue d'un passé qu'elle pensait assoupi, engendré par la mémoire de Claire et Cécile, ses ancêtres. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume ? Vous savez pas de quel genre de, chagrin c'est le lenbe ? Ben, c'est pas moi qui prendrai le risque de vous initier à ce chagrin qui contient une touche de sucré. Ce sera Christiane Taubira dans « Ces morceaux de vie » comme carreau cassé.
Paru chez Robert Laffont.
Merci mille fois. Vous avez donné tellement d'émotions.
C'est vous deux. Ne pleurez pas toutes les deux. Christiane Taubira avec nous.
J'aimais mes femmes là dans ce livre. Je les aime un peu plus encore grâce à vous.
Oh, dites-vous, oh.
C'est joli.
On la garde alors, Christiane.
On
Juliette.
Hésitait.
Non, mais c'est bien comme ça. On a tous repensé un petit moment.
Moi, je fais un sitting devant la maison si vous voulez vous débarrasser du livre.
Pas question. Tiens, parlons. On a une minute et demie pour parler un peu d'humour. Les élus, souvent, rient de leurs blagues. Il y a un prix de l'humour politique. Généralement qui récompense la petite phrase. Mais le rire désacralise le pouvoir, il le rend aussi sympathique. On se demandait si l'humour était l'allié ou l'ennemi du politique. Par exemple, l'humour, il s'en prend à l'image médiatique du politique. Est-ce que vous, il y a des blagues sur vous qui vous renvoyaient une image quand vous étiez garde des Sceaux ?
Alors, je m'en souviens pas. Moi, je suis très attachée à l'humour. Et puis, on sait ce que ça coûte, hein, quand le roi n'a pas ri.
Placement de produit.
Mais en politique, je fais peut-être la différence entre l'humour et la dérision, et surtout l'autodérision. Mm-hmm. L'humour, il faut un talent consommé. En tout cas, le bon humour, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit spirituel. Il y a l'humour grossier, là, balourd.
Vous entendez, Guillaume?
J'essaie de me situer.
La dérision. Non, vous n'êtes pas concerné. Pour la politique, voilà, je veux dire, il faut une vraie capacité d'autodérision et de dérision. Mm-hmm. C'est ça qui sauve. Il m'arrivait dans des situations très très dures de dire une légèreté, mais qui était complètement incongrue, qui nous fait à la fois éclater de rire et éclater en sanglots. Parce que c'est ça qui sauve à ce moment-là. Donc je crois que c'est salutaire. Je pense que c'est salutaire. Mais pour que ce soit possible, il faut pas avoir le bourdon. C'est comme ça qu'on dit là. Il faut pas se prendre pour.
Faut avoir du recul, quoi. C'est sûr.
Oui, et puis il faut pas se prendre plus au sérieux.
Sorti de la cuisse de Jupiter, par exemple.
Je n'osais pas. C'est pour ça que j'étais incapable de terminer ma phrase.
J'ai pris toute la responsabilité sur moi. Juliette Arnaud, vous avez un questionnaire de Parjupi Proust pour Christiane Taubira.
Voilà. Question idiote, réponse courte. Est-ce que vous êtes prête? Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de l'insomniaque, 10 étant Napoléon, 0 étant Snoopy, le roi de la sieste, à combien vous situez-vous, vous?
Alors, comme j'ai du mal avec Napoléon, je me mets à 18 facile.
Vous êtes exilé sur une île déserte et vous pouvez emporter tous les livres de votre auteur préféré ou l'auteur lui-même. Que choisissez-vous?
Ah ouais?
Les livres. C'est nul de dire ça. Et pourtant, je m'y tiens.
Je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Ceux qui disent que la Guyane est une île, coucou Manu. Ceux qui vous appellent Tata Cricri, coucou Guillaume. Ou ceux qui ne rebouchent pas les tubes de dentifrice, coucou chérie.
Pas la deux déjà.
Ah oui, moi j'aime bien Guillaume.
Ah ok. Ouais. Oh,
je le trouve saoulant. Je le trouve saoulant.
Comme beaucoup de gens.
Mais voilà, c'est ça, c'est les deux. Un peu d'amour, beaucoup de saoulerie. Oui. Avoir la passion des livres, est-ce que ça ne serait pas une misanthropie déguisée? C'est pas pour moi, c'est pour une amie.
Non, moi j'ai eu franchement des crises de misanthropie. J'en ai de moins en moins en vieillissant là.
Okay.
Mais il y a une période, j'en avais beaucoup. Hein, je voulais quitter l'espèce humaine pendant 48 heures, pas plus. Hein, mais j'envisageais d'aller dans le désert de Kalahari, hein, complètement, voilà, en Afrique australe. Mais 48 heures, pas plus. Donc les livres et les femmes, non, j'ai trop besoin de toucher les gens, les regarder, les entendre rire, les voir pleurer, les entendre pourrir la vie des autres. Pour ça.
Quel ancien ou ancienne ministre de François Hollande pourriez-vous inviter à passer une semaine de vacances en Guyane chez vous ?
Il n'y a pas que des ministres sur Terre. Hein.
Quel chroniqueur ou chroniqueuse de l'émission pourriez-vous venir inviter à passer une semaine en vacances chez vous en Guyane ?
De vous ?
Ouais, de cette émission par exemple.
Ma maison est assez grande, la Guyane est assez
venir.
Grande, la plage
ouais,
assez grande.
Bienvenue.
Merci Christiane Taubira d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci à vous, quel bonheur. Vous entendre, c'est quelque chose, mais alors vous voir.
Ah, merci.
Oui, parce qu'on est des physiques aussi, il faut pas oublier ça.
Et vous lire, Christiane Taubira, ces morceaux de vie, trois petits points, comme carreaux cassés, paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Je vous dis à demain, ce sera un par Jupiclas, l'émission pour les pitchounes. Et donc n'hésitez pas vraiment à nous confier l'éducation de vos enfants.
Anarchie ! Moi, je sais même pas ce que ça veut dire, mais j'aime bien crier ce mot-là.